La mort, c'est la veilleuse auguste de la vie, la lueur allumée au sommet du destin. Voilà ce que disait Victor Hugo. Pourtant, cette mort qui nous guette tous, beaucoup peine encore à l'appréhender, à en parler, à y faire face. Elle reste un sujet tabou, sans doute par peur d'y être confronté, peur de souffrir aussi dans une société qui a érigé la vie éternelle en modèle. Et si au contraire, se préparer à mourir était finalement la meilleure façon de vivre? C'est en tout cas la conviction de notre invité du jour, Gian Domenico Borasio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur ordinaire de médecine palliative au CHUV et chef du service des soins palliatifs de ce même hôpital. Vous publiez ces jours-ci un ouvrage qui s'intitule « L'autonomie en fin de vie, le débat allemand, des pistes pour la Suisse, un enjeu pour nous tous ». Cet ouvrage, c'est la suite, on peut dire, d'un premier livre qui a connu un succès monstre et qui va être réédité aux presses polytechniques et universitaires romandes. Il s'appelle « Mourir, ce que l'on sait, ce que l'on peut faire et comment s'y préparer ». Merci d'être avec nous en direct de nos studios de Lausanne. Gian Domenico Borasio. S'il y a une certitude dans ce bas monde, c'est qu'on va tous mourir un jour, hein, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Pourtant, vous déplorez dans vos livres que trop peu de gens pensent à leur mort. Pourquoi ne le font-ils pas, à votre avis?
Bon, je dirais que c'est assez naturel, d'une part, de ne pas se préoccuper de sa propre mort tous les jours. Ça, c'est un privilège réservé aux palliativistes, peut-être. Mais effectivement, il y a aussi un côté très dangereux de la tabouisation de la mort. C'est qu'on n'en parle pas. Et c'est que quand on arrive à une fin de vie, parfois, on se retrouve dans des situations où on n'est plus en mesure de décider. Et nos proches n'ont aucune idée de nos priorités, nos craintes, nos souhaits. Et se trouve à devoir prendre des décisions extrêmement difficiles sans connaissance des causes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement éviter si on installe un dialogue sur ces thématiques.
On va y revenir hein, sur ce dialogue que vous vous appelez. Mais le fait qu'on ose ou qu'on ait peur de parler de la mort, à votre avis, c'est lié à quoi? Est-ce que la médecine, les médecins ont aussi un rôle à jouer là-dedans? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on peut tout soigner, que voilà, qu'on va jamais mourir dans le fond.
Alors effectivement, dans les dernières décennies, on a eu des progrès incroyables dans la médecine dont nous profitons tous. Et ça a un peu mis à côté le fait indubitable que nous allons tous mourir un jour et que, en effet, c'est ça qui donne du sens à notre existence. C'était, je pense, Jean-Paul Sartre qui avait dit « c'est notre finitude qui nous rend humains ». Et donc, il faut dire que d'être confronté à la mort de façon quotidienne, comme on l'est dans le travail des soins palliatifs, en effet, c'est un incroyable cadeau parce que les personnes qui nous amènent dans le dernier bout de leur chemin et qui nous confient des choses très intimes, en effet, ils nous apprennent à vivre.
Nous apprennent à vivre. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que qu'on fait des conférences, vous racontez que vous proposez à votre public trois choix de mort. Hein. Le premier, c'est la mort subite, crise cardiaque, d'un coup comme ça, paf. Le second, c'est d'une maladie, disons, évolutive, comme le cancer, avoir le temps de s'y préparer. La troisième, c'est mourir d'une longue démence. Les gens, forcément, répondent la première hein, catégorie. Et vous, vous dites, en fait, vous allez surtout probablement vous retrouver dans les deux dernières. On a une vision qui est totalement contraire à la réalité.
Ah oui, ça c'est le décalage entre les souhaits et la réalité qui est propre de la vie tout entière. Effectivement, il y en a que 5% des gens qui vont décéder de manière subite en pleine santé. Et pour tout le reste, effectivement, des soins palliatifs de qualité sont importants, pas seulement pour les cancers, mais surtout pour les grands vieillards, les personnes très fragiles, avec plusieurs maladies, très dépendantes et souvent démentes, qui seront la plupart des mourants de demain. C'est pour ça que au CHUV, on a créé l'année dernière en première mondiale une chaire universitaire des soins palliatifs gériatriques, en collaboration avec le service des gériatriques. Et ça, c'est effectivement un regard vers le futur, parce qu'aujourd'hui déjà, dans le canton de Vaud, les gens qui meurent sont en moyenne plus âgés de 85 ans. Et ça, il faut prendre en compte.
Alors justement, vous conseillez dans vos livres et dans les interviews que vous donnez à se préparer à mourir pour, je cite, « mieux apprendre à vivre ». Mmh. Ça veut dire quoi?
Effectivement, j'ai trouvé plusieurs fois que les expériences qui nous ont raconté les personnes en fin de vie que nous côtoyons par ailleurs pour des années, les soins palliatifs, c'est pas les soins terminaux.
On a souvent l'impression que c'est ça, pourtant.
C'est les soins terminaux. Malheureusement, pour beaucoup de nos confrères aussi, mais effectivement, les soins palliatifs, c'est plutôt les derniers 2 ans de vie, pas les derniers 2 jours ou 2 heures. Et alors, nous côtoyons ces patients pour longtemps et ils nous font part de leur expérience. J'ai encore trouvé une seule personne qui m'aurait dit, vous savez, docteur, j'aurais dû travailler davantage dans ma vie. Donc, il y a certaines choses qui se répète, et j'ai trouvé que c'est très utile parfois, quand vous avez une décision importante à faire dans la vie, de vous imaginer sur votre lit de mort et de cette perspective de regarder en arrière pour voir comment est-ce que vous auriez souhaité vous avoir décidé dans cette situation, de cette perspective-là. Ça peut être très utile dans mon expérience.
Alors comment on se prépare concrètement ?
Alors concrètement, il faut surtout commencer à s'informer. Là, il y a des possibilités. Et il faut parler. Il faut parler avec les gens qui nous sont chers. Il faut essayer de voir quels sont leurs souhaits, leurs craintes par rapport à nous et vice-versa. Il faut décider, mais qu'est-ce que je veux qu'ils prennent des décisions sur moi dans ma fin de vie si moi je ne le peux plus ? Parce qu'il y a des moyens de décider sur son représentant thérapeutique, mais si on ne décide pas, c'est la loi qui décide. Donc là, il y a un risque quand même. Et il faut peut-être aussi penser à la rédaction des directives anticipées, ce qui est quelque chose qui peut être très utile à nos médecins futurs pour façonner la manière de nos traitements, de la manière à répondre à nos souhaits et surtout à nos craintes.
Et ces conseils, cette préparation, vous la conseillez aux auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, mais pas seulement. Vous dites également aux médecins qu'ils ont un rôle à jouer. Hein. Vous avez dit qu'il fallait communiquer, parler. Et vous avez une phrase qui m'a marquée dans votre livre, Mourir, c'est donc le nom du livre. Vous écrivez, dans nos sociétés occidentales, la personne mourante est devenue un grain de sable dans le déroulement normal des hôpitaux. C'est une critique assez virulente. Hein.
Alors c'est vrai qu'effectivement, quand je raconte à mes confrères qu'il y a quand même 1000 décès par an au CHUV, ils sont tous un peu bouleversés, ils ne savaient pas, c'est quand même 3 par jour, c'est presque un vaudois sur 5, tous vaudois confondus, qui décèdent physiquement au CHU, ça ne devrait pas forcément être comme ça, et les cantons cherchent vraiment à renforcer les soins à domicile pour permettre à plus des gens de décéder à la maison, ce que tout le monde souhaite, mais que à peu près un petit 15% arrive à faire, donc c'est pas évident. Il faut aussi cibler les EMS parce que ça devient là le lieu de la fin de vie le plus fréquent en Suisse tout entière et en Romandie aussi. Mais effectivement, les médecins ont un rôle à jouer parce que c'est eux les experts. C'est eux qui peuvent répondre à des questions médicales sur la fin de vie, surtout si quelqu'un a déjà une maladie potentiellement fatale. Il faut se souvenir du fait que dans le futur, 90% des personnes décéderont des maladies chroniques, dont c'est des décès attendus en quelque manière. Et donc, on peut effectivement faire de l'œuvre des préventions de la souffrance. Aussi en soins palliatifs, la prévention, c'est beaucoup mieux que le traitement.
Pourtant, vous écrivez qu'aujourd'hui, il y a des erreurs médicales qui sont commises parce que les médecins ne sont pas assez bien formés. Donc, il y a quand même quelques problèmes à ce niveau-là.
Alors, c'est vrai que les soins palliatifs n'étaient pas ne faisait pas partie du cursus des étudiants en médecine, mais ça a changé. Depuis 2012, on a réussi à introduire la médecine palliative comme matière obligatoire d'enseignement et ça c'est peut-être un des succès les plus importants de la discipline parce que ça va changer la manière dont les soins palliatifs généraux seront administrés dans le futur, mais il faut savoir que ça prend quand même quelques années pour que tous ces volets d'étudiants arrivent dans la pratique médicale, donc il faut avoir un peu de patience, mais il y a aussi beaucoup de confrères et consoeurs qui sont déjà dans la pratique et qui s'intéressent à ça et qui nous demandent des formations. Donc il y a effectivement une reconnaissance croissante qui fera du bien aux patients.
Il y a quand même une question qui taraude à peu près tout le monde. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de mourir paisiblement ?
Mais absolument. Alors il y a 2 types de craintes par rapport à la mort. Il y a la crainte de la mort, c'est-à-dire la crainte de ce qui se passe après. Alors là, nous ne pouvons rien dire parce que personne n'est revenu pour nous dire qu'est-ce qui se passe après. Par contre, la peur du mourir, c'est-à-dire la peur d'avoir des souffrances atroces avant la mort, là, ça, on peut vraiment la soulager parce que la médecine palliative dispose aujourd'hui d'une pléthore des techniques pharmacologiques et non pour soulager la souffrance dans la fin de vie. Et effectivement, on arrive à le faire dans presque toutes les personnes. C'est jamais 100%, mais dans presque tout le monde.
Gian-Domenico Borasio, une dernière question, il nous reste quelques secondes. 20 ans de carrière, plus de 10 000 patients que vous avez côtoyés. Et quand on vous lit, on sent un réel bonheur d'exercer ce métier, une joie de vivre et beaucoup d'optimisme. Comment vous faites ?
Alors, en effet, c'est justement à cause de ça, de côtoyer des gens en fin de vie, c'est le plus grand cadeau que j'ai reçu dans ma vie. Je devrais effectivement payer moi-même pour faire ce boulot.
Le plus grand cadeau. Vous dites que c'est pas les vivants qui ferment les yeux des morts, mais...
Alors, effectivement, c'est une citation d'un citoyen de Grenoble qui avait dit « c'est pas... les vivants qui ferment les yeux des mourants, c'est les mourants qui ouvrent les yeux des vivants. » Je trouve ça une très belle description de notre travail.
Vous avez peur de la mort, vous ?
Pas vraiment, non.
Pas vraiment ?
Non.
Bon, vous savez comment ça se passe maintenant.
Bon, alors, c'est toujours individuel. Chaque personne meurt comme elle a vécu.
Gian-Domenico Borasio, c'est un sujet dont on pourrait parler des heures. Le temps nous manque. Alors, pour tous ceux qui veulent en savoir plus et comprendre comment on peut se préparer à la mort, on va reciter votre livre, le livre qu'il faut lire. Il s'appelle « Mourir, ce que l'on sait, ce que l'on peut faire, comment s'y préparer ». C'est aux presses polytechniques universitaires romandes. Je vais vous faire un aveu. Moi, quand j'ai terminé, je suis allée lire les directives anticipées de la FMH. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée.